On a donc vu que l'instruction dans la famille est la base indispensable. Nous savons qu'on essaye aussi de rajouter quelques enseignements par l'intermédiaire d'écoles du dimanche, par les réunions de jeunes, qui ont une place importante quand même. Mais on a souvent dit que l'essentiel de l'école du dimanche, c'était de faire apprendre des versets et que l'on puisse s'en souvenir longtemps, comme on l'a précisé. Ça permet d'avoir de l'efficacité même dans la vieillesse. Mais ces réunions ne remplacent pas ce qui se passe au sein de la famille. Et il faut quand même que nous y pensions tous, parce que on a la surprise d'avoir la confession de quelques personnes qui, des personnes de l'Assemblée, des personnes en communion, qui nous disaient que dans leur famille, on n'ouvrait jamais la Bible. On n'ouvrait jamais la Bible et il n'y avait juste l'action de grâce avant un repas qui était la seule activité spirituelle dans la famille. Donc il ne faut pas se laisser aller à de telles choses, ça manque après. C'était une jeune fille qui le disait et elle regrettait qu'il n'y ait pas eu plus dans le foyer de ses parents. Et nous avons à être vigilant et à penser effectivement à accomplir ce que nos amis nous ont cité comme moyen de transmission de cette instruction.
Il y a quelques années, dans certaines familles, on ne lisait pas la parole. Et comme Jean-Louis vient de le dire, c'était peut-être uniquement la lecture du feuillet du calendrier avec son verset et son explication derrière qui était la lecture de famille en fait. Ce n'est pas pour excuser, mais c'est simplement pour émettre une pensée. Plusieurs familles pensaient que la parole était quelque chose de trop saint, trop sacré. Et les parents n'osaient pas trop en parler de peur de la déformer, laissant le soin aux personnes qu'ils estimaient être mieux placées et dans les assemblées, dans les réunions d'assemblées, de le faire. Je crois que on doit s'excuser s'il y a eu des comportements comme cela. C'était un dérapage. On a oublié ce qui était écrit dans Deutéronome. Et on ne doit pas perpétuer ça. On doit, comme Jean-Louis vient de le dire, faire ce que la parole disait, lire la Bible en famille. Et ça, quelque chose de quotidien, comme on nous l'a bien fait remarquer. Je crois que Jean-Philippe et Julien l'ont bien fait remarquer. C'est une lecture quotidienne. Une lecture quotidienne qui doit commencer en famille pour que les enfants puissent après le continuer seuls. C'est un peu comme une barque. On peut imaginer simplement cela. Au départ, c'est les parents qui conduisent la barque. Et c'est eux qui rament, c'est eux qui font avancer. Mais après, ce sont les enfants qui doivent continuer dans la bonne direction. Mais déjà, si la direction, le cap a été donné par les parents, ce sera plus facile aux enfants de continuer dans le même cap, avec le même cap, la même direction.
Devant relever dans les temps actuels, et que je crois que nous remarquons, et particulièrement nous, les grands-parents, c'est que dans les familles, il est souvent très difficile maintenant de trouver du temps en famille pour lire la parole. Les enfants, ce qu'ils doivent recevoir à l'école, dans les collèges ou ailleurs, et en plus de ça, toutes les activités périscolaires qui, de notre temps, n'existaient pas, n'est-ce pas, ou très peu, on peut remarquer que il est très difficile aux parents, même s'ils ont ce désir, de trouver un moment pour regrouper les enfants et, comme il vient d'être dit, de s'arrêter sur la parole de Dieu. Je crois que nous ne pouvons qu'inviter les jeunes parents ici présents, c'est que c'est quelque chose sur lequel il faut lutter actuellement. Ce n'est pas facile, c'est certainement pas facile, mais je crois qu'il faut lutter pour cela parce que, en effet, la parole de Dieu, lue en famille, est quelque chose qui reste du cœur des enfants.
Pour rebondir un peu sur ce que disait Bernard, c'est que quelquefois, des parents ne se sentent pas les compétences ou l'intelligence ou une aptitude suffisante pour enseigner, pour commenter la parole. Alors il ne faut pas oublier qu'il y a des écrits des frères et on peut les mettre bien sûr dans les mains des enfants. Et les écrits des frères sont des documents aussi très très complémentaires à la lecture de la parole.
Au début des Proverbes, il est dit « Écoute mon fils, l'instruction de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. » Il y a donc ce travail des deux. L'instruction de ton père, l'enseignement de ta mère. C'est la présence de la mère auprès des enfants de façon souvent plus importante que celle du père. Permet des relations qui, comme on a parlé des relations de confiance, des relations d'amour et de confiance qui sont parfois plus étroites et qui permettent à la mère justement d'avoir cette possibilité d'enseigner et de pouvoir ainsi transmettre effectivement, nous voyons, nous l'avons lu pour Timothée, nous voyons de qui il avait appris, sa grand-mère, sa mère, c'était les vectrices du message de la foi. Voilà, je crois qu'en le couple, il y a cette complémentarité qui permet d'apporter et il faut que chacun se sente concerné et ne laisse pas à l'autre la charge de cette instruction et de cet enseignement. Tu as évoqué, Julien, à propos de l'amour et la confiance, pas de sévérité excessive, cette possibilité d'effectivement de pouvoir avoir avec les parents cette relation suffisamment intense pour pouvoir confesser quelque chose, pour pouvoir avec eux résoudre des problèmes, des difficultés morales, peut-être des fautes commises. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose d'important à faire et je ne sais pas si nous avons eu pour nous et puis si ceux qui sont jeunes maintenant ont cette liberté de pouvoir partager des choses comme ça.
Le livre des Proverbes est, je crois, très intéressant, ce qui nous occupe cet après-midi. Et si même on ne peut pas l'appliquer uniquement à la jeunesse ou aux enfants, par exemple quand il est dit « mon fils » plusieurs reprises, néanmoins on sent bien qu'il y a là comme une autorité qui s'adresse à quelqu'un qui en a besoin et je crois qu'on ne peut qu'inviter les parents et les enfants à lire et à relire ce livre des Proverbes, très instructif à ce sujet. Je voudrais aussi souligner un fait qui est reconnu du reste dans le monde, c'est qu'il semble que maintenant, de nos jours, l'autorité parentale est bien délaissée. Et tout cela se répercute dans la vie des jeunes, très certainement. C'est reconnu dans le monde. Beaucoup de parents, comme on dit, baissent les bras et n'ont pas cette autorité dans leur famille vis-à-vis de leurs enfants. Je crois que pour nous, chrétiens, c'est quelque chose qu'on doit aussi retenir. Alors, il y a bien sûr, entre la sévérité excessive, il faut que ce soit... Cette sévérité excessive n'ait pas lieu, bien sûr, mais qu'elle soit guidée par l'amour. Il y a un équilibre là à avoir. Ce verset « N'irritez pas vos enfants » est bien là pour nous le montrer. Mais par ailleurs, il y a des versets dans les Proverbes, on en trouverait plusieurs, mais je pensais à ce verset, Proverbe 23 par exemple. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Au verset 13, « Ne manque pas de corriger le jeune garçon, quand tu l'auras frappé de la verge, il n'en mourra pas, tu le frapperas de la verge, mais tu délivreras son âme du Sheol. » Ces versets, bien, sont là, consignés dans la parole et sont à retenir pour les parents.
Juste pour illustrer un peu ce qui vient d'être dit, les martinets n'existent plus maintenant, mais avant qu'ils disparaissent complètement, vous seriez allé acheter un martinet dans un magasin, on vous traitait de parent indigne. Or, me semble-t-il, le martinet et la verge n'étaient pas tellement éloignés l'un de l'autre.
Le Nouveau Testament confirme la nécessité de la discipline. En hébreu, l'auteur dit « Si vous n'êtes pas soumis à la discipline, vous êtes des bâtards et non des fils. Si vos parents n'exercent pas envers vous cette discipline, eh bien, ils vous enlèvent votre dignité de fils, votre dignité d'enfant. » Nous sommes exhortés à ne pas baisser les bras.
Le Seigneur a donné dans ses enseignements des instructions qui sont valables pour tous, mais aussi pour les parents. En Matthieu 18, par exemple, et qui rejoignent ce qui vient d'être dit. Matthieu 18, verset 10. Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits. Ça, c'est une exhortation pour les parents. Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits. On peut mépriser un enfant en disant, oh, après tout, profits et pertes, on ne va pas se fâcher pour ça, et on va laisser faire. Et finalement, on risque de faire le malheur de l'enfant. On peut mépriser l'enfant aussi en administrant une correction trop forte, en ne tenant pas compte de la personnalité de l'enfant. Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. C'est pas rien, ça. Un autre écueil pour les parents, c'est d'empêcher les enfants de venir au Seigneur. Ça peut paraître curieux. En Matthieu 19, verset 14, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Il n'est pas dit « Poussez les enfants pour qu'ils viennent à moi. » Laissez venir à moi les petits-enfants. Autrement dit, c'est ce qui a été dit dans l'introduction, le Seigneur se charge d'attirer à lui les enfants. Son cœur aime les enfants. Ne les en empêchez pas.